Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La Bible, livre de chevet, lointain souvenir, livre d'histoire. La Bible est l'un des livres, si ce n'est le livre le plus vendu par le monde. Mais pour entrer dedans, il en faut du temps et de la persuasion, de la patience. Notre invité de ce matin en a. Bibliste, docteur en sciences bibliques même, elle va nous prendre par la main et nous aider à découvrir un peu mieux cette grande figure, s'il en est des Écritures, Saint-Pierre. Saint-Pierre, chef des apôtres, un géant aujourd'hui, si loin de nous et pourtant si proche. Saint-Pierre ou l'appel de Dieu, c'est le thème donc de l'émission Vivante Église de ce matin avec vous, Bernadette Escaffre. Vous êtes professeur émérite en sciences bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir nous prendre par la main ce lundi. Alors c'est un lundi matin un petit peu exigeant puisqu'on va parcourir les Écritures. Je compte sur vous pour nous aider à faire de cette balade une promenade de santé. La vocation de Pierre, donc on s'est dit qu'on allait faire donc une émission sur le thème de l'appel. L'appel, c'est quelque chose qui reste probablement très mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Quand on a des gens qui sont appelés dans nos familles, quand ça arrive, ou dans nos entourages, à la prêtrise ou à la vie religieuse, c'est toujours quelque chose d'émouvant, de chamboulant, preuve qu'on ne s'y fait pas. Vous avez fait un choix un peu particulier à l'occasion d'une intervention que vous aviez donnée dans un colloque sur ce thème de l'appel, c'est de regarder la figure de Saint-Pierre et particulièrement à travers l'évangile selon Saint-Jean. Alors, on va se plonger dedans. Juste avant tout, Saint-Pierre, je disais, on va dire c'est un géant de l'Église, si loin, si proche. Je disais ce matin dans le teasing de l'émission que c'est une figure très attachante parce que c'est un homme qui donne l'impression d'avoir un caractère très entier, presque un peu monobloc. Il suit Jésus, après il ne veut pas qu'il se fasse crucifier, après il sort son épée, après il court presque nu à la rencontre du ressuscité. C'est quelqu'un de touchant et pourtant c'est le premier pape de l'histoire de l'Église. Ça, que diriez-vous pour introduire ce propos à propos de Saint-Pierre ?
C'est vrai que c'est un personnage, enfin une personne, un disciple qui est vraiment très touchant par son humanité. Et c'est beau de voir ce qu'il a vécu avec Jésus, d'où il est parti et jusqu'où il arrive. Et à travers sa propre expérience, il nous apprend beaucoup sur la nôtre et il nous aide aussi à découvrir davantage, avec davantage de profondeur, l'amour de Jésus.
Voilà, Saint-Pierre donc était un pêcheur sur le lac de Galilée et qui finira sa vie en étant crucifié la tête en bas, là où se trouve aujourd'hui Saint-Pierre de Rome. Donc crucifié, c'était dans le Forum romain, dans le Colisée romain, c'est ça, de l'époque. Bref, on y reviendra. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de voir la figure de Saint-Pierre à travers l'évangile selon Saint-Jean ? C'est un choix un peu particulier qui va nous servir de trame ce matin.
Oui, parce que c'était Saint-Jean, il présente Pierre d'une façon un peu différente des autres synoptiques. Non pas parce que c'est un autre Pierre différent, mais parce que il met l'accent sur certaines choses et à travers ces éléments, il nous fait découvrir quelque chose de très important par rapport à celui qui va recevoir la responsabilité de la communauté, la responsabilité du troupeau. Et donc Saint-Jean nous fait cheminer pour découvrir certains éléments qui sont très importants.
Alors Saint-Pierre et Saint-Jean aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus ? On a l'impression que là c'est un jeu d'ombre et de lumière à parcourir l'évangile selon Saint-Jean, Pierre qui est mis en lumière, après qui s'efface, c'est Saint-Jean qui passe devant, puis après c'est nouveau Saint-Pierre. C'est comme une danse presque.
Oui, c'est vrai, dans le moment de la découverte du tombeau ouvert. Hein, donc ils vont ensemble, et puis il y a le disciple que Jésus aimait qui arrive d'abord, et puis il attend, il laisse passer Pierre pour entrer dans le tombeau. Donc c'est vrai qu'il y a, Saint-Pierre et Saint-Jean, ce sont deux figures très importantes du début de l'Église, et chacun, enfin Saint-Jean, il a créé, il est à l'origine d'une communauté importante, la communauté joannique, et de plusieurs écrits. Enfin, du moins, on lui attribue à Saint-Jean plusieurs écrits et la responsabilité de la communauté joannique. Alors bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à Saint-Jean et le fait que dans le quatrième évangile, Saint-Jean, il n'est pas mentionné par son nom Saint-Jean, mais il est question du disciple que Jésus aimait, et la tradition de l'Église dit ce disciple que Jésus aimait, c'était Saint-Jean. Mais dans l'Évangile, il n'est pas mis en valeur de cette façon. Donc il y a tout un jeu. Bon, ça serait à une autre occasion.
On va dire Pierre et Paul, c'est, on va dire, les deux piliers de l'Église, mais Pierre et Jean, c'est...
Et oui, c'est aussi...
C'est les deux figures spirituelles, peut-être, des Évangiles, en tout cas.
Oui, voilà, qui sont très importants. Et là, on parlera une autre fois de Saint-Jean.
On en parlera.
Mais donc cette figure de Pierre dans l'évangile de Jean, il est présenté avec certaines nuances un peu que ne disent pas ou ne présentent pas les synoptiques. C'est pas en opposition avec les synoptiques, mais ça montre plus de certaines nuances par rapport à la vocation et par rapport à cette figure de
Pierre. Les synoptiques, c'est donc les trois autres évangiles, oui. C'est donc Marc, Matthieu et Luc.
Voilà, les trois.
Alors si on se lance, je le dis aux auditeurs, on va passer une première partie à essayer de voir comment Dieu a l'initiative dans n'importe quel appel, à la lumière de ce qui se passe pour Pierre. Dans la deuxième partie de l'émission, on verra que Pierre, comme chacun de nous, probablement a du mal à se faire à ce que le succès du Christ ne soit pas celui qu'il attendait. Et puis, vous avez cette phrase, on verra ça dans la dernière partie à propos de la vocation de Pierre, « Il n'y a pas de vocation sans amour ». Pour chacune, on parcourra un passage de l'Évangile. Vous nous direz, vous nous tiendrez par la main pour nous aider un petit peu à méditer sur les Écritures. On verra ce que ça dit de Dieu et ce que ça peut nous dire à chacun de nous. Alors, si on commence, c'est dans Jean 1, 40, 42. Je vais lire rapidement le passage. Celui-là n'est pas trop long. Et puis, on va se lancer dans le commentaire. C'est des choses entendues, mais là, le propos de l'émission de ce matin, c'est donc de nous aider à rentrer dans des analyses plus fines des Écritures. André était le frère de Simon-Pierre, un des deux qui avait entendu d'auprès de Jean et l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui est traduit « Christ ». Il l'amena vers Jésus. L'ayant regardé, Jésus lui dit « Toi, tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Képhas », ce qui veut dire Pierre. C'est donc Jean 1, 40-42. Alors, première chose que vous notez, Bernadette Escaffre, avant toute chose, qui est André ? Il y a deux hommes qui ont suivi donc Jean Jésus après son baptême, que l'on fêtait hier. C'est donc André et puis un autre disciple.
Dites-nous deux mots
de ces deux disciples.
Ces deux disciples, c'était des disciples de Jean-Baptiste, d'après le quatrième évangile. Ce sont deux disciples de Jean-Baptiste. Et quand ils entendent le témoignage de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste les oriente vers Jésus et eux, ils se mettent à suivre Jésus. Et donc,
c'est les tout premiers qui suivent
Jésus. Donc, ils suivent Jésus. Et donc, ils connaissent Jésus, ils demeurent avec Jésus là quelques temps, enfin quelques heures même, simplement dans l'Évangile. Et donc après, ces deux disciples, on ne sait pas qui c'est, et après on apprend que l'un d'entre eux, c'est André le frère de Simon. Donc ce qui est intéressant aussi de voir dans l'Évangile de Jean, c'est que ce n'est pas Jésus qui a appelé les disciples, mais c'est Jean-Baptiste qui a orienté les disciples vers Jésus. Et parmi ces deux disciples, il y en a un, donc André, qui va trouver son frère, Pierre. Donc Pierre n'est pas non plus appelé par Jésus, mais il est conduit par André vers Jésus.
Alors vous dites justement que quelque part le principal protagoniste, c'est André dans ce passage, et que Simon-Pierre est assez effacé. Expliquez-nous.
Oui, voilà. Et donc si on voit, d'après ce que vous avez lu là, on se rend compte que d'abord André va trouver Simon-Pierre et lui dit « nous avons trouvé le Messie ». Et que fait Simon-Pierre ? Il ne réagit pas, il ne répond pas. Il ne réagit pas. Et après, on nous dit que c'est André qui amène Simon-Pierre vers Jésus. Et donc là aussi, il est présenté comme totalement passif, Pierre. Parce que c'est Simon, son frère, et Jésus va l'appeler Pierre. Il est amené par André, et puis quand il est devant Jésus, Jésus lui dit quelque chose, il lui change son nom, il ne répond pas non plus.
Vous dites aussi, il n'est sujet d'aucun verbe, si ce n'est des verbes être et être appelé.
Oui, voilà.
Et puis Jésus dit tu, mais lui ne parle pas de lui-même.
Il ne répond pas. Donc il est là présenté dans une attitude totalement passive. Ce n'est pas forcément négatif, mais enfin, c'est, en tout cas, il ne réagit pas. Et si André est allé trouver son frère, lui, Simon, il ne va trouver personne d'autre pour lui dire on a rencontré le Messie. Donc il n'est pas présenté sous un jour très, très lumineux au début de l'évangile.
Vous dites aussi que c'est la première fois que Jésus s'adresse à une personne en disant tu.
Mmh. Oui, voilà. Oui. Donc, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Donc Jésus a parlé aux deux disciples qui le suivaient, les disciples de Jean-Baptiste et qui s'étaient mis à le suivre. Il va leur parler, donc en vous, ils sont deux. Et puis là, il s'adresse à quelqu'un en tu. Mais Jésus ne lui dit pas « suis-moi ». Et ça va être une bonne pédagogie, je pense, de la part de Jésus et que nous montre le quatrième évangile. Pierre n'est pas appelé à suivre Jésus dès le début.
Dans le quatrième évangile, ce sont les premiers mots adressés par Jésus à une personne seule en tu. Donc, je le rappelle, l'ayant regardé, Jésus lui dit, toi, tu es Simon, le fils de Jean, tu seras appelé Képhas, qui veut dire Pierre. On aurait pu dire aussi que Pierre, on va dire, reçoit de multiples noms, en l'occurrence. Hein. C'est à la fois Simon, fils de Jean, Képhas, et puis il est présenté par le frère de Simon. Il est présenté comme Simon Pierre, le frère d'André. Alors maintenant, si on essaie de voir ce que ça nous dit de Dieu, Bernadette Escaf, quand on prend le temps justement de parcourir, de s'arrêter un petit peu comme ça sur ce passage des Évangiles, on s'était dit donc l'intitulé de cette partie, c'est dans tout appel, c'est Dieu qui a l'initiative. On peut déjà dire que ça passe presque toujours par un témoin, non? Par une tierce personne, oui, Dieu se manifeste rarement autrement.
Voilà, c'est vrai, là, il y a l'intermédiaire d'une tierce personne, c'est-à-dire, c'est pas Jésus qui va chercher Pierre directement, ou Simon, c'est son frère qui l'amène à Jésus. Et les deux premiers qui vont devenir disciples de Jésus, André et un anonyme, ces deux-là aussi, c'est pas Jésus qui les a appelés, mais c'est Jean-Baptiste qui les a orientés vers Jésus. Et après, on va voir aussi un autre disciple qui va être appelé, celui-là, il va être appelé Philippe par Jésus, et puis Philippe, il va chercher Nathanaël. Donc, l'évangile de Jean nous montre l'importance de la rencontre avec Jésus se fait par l'intermédiaire d'une personne. Et donc, l'importance des témoins, du témoignage. Une personne qui est déjà disciple, qui a rencontré des Jésus, qui a découvert quelque chose de Jésus, elle va l'annoncer à d'autres.
Alors l'autre chose, même si c'est déroutant, de voir comme ça le premier pape quelque part de l'histoire de l'Église être appelé et être réduit à une certaine passivité, c'est que quoi qu'on veuille, la liberté du côté de Dieu, Dieu a toujours l'initiative en fait d'appeler les hommes.
Alors il n'est pas vraiment appelé là dans ce premier par Jésus. Enfin, disons, il serait appelé.
Il y a une rencontre, en tout cas.
Oui, voilà. Il serait appelé, si vous voulez, dans la mesure où il change de nom. Enfin, il lui donne un autre nom. Hein. Donc, c'est ça. Mais il ne lui dit pas « suis-moi » directement. Hein. Et donc, finalement, il y a, comme on disait, une passivité de Pierre. Et cette passivité... Elle va après, le personnage de Pierre va évoluer au cours de l'évangile. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si Pierre rencontre Jésus, c'est grâce à son frère. Hein, donc il y a un intermédiaire. Et c'est quelque chose qui est important, souvent même pour nous aujourd'hui, et avec les personnes que nous connaissons, il y a souvent des intermédiaires qui nous ont permis de rencontrer le Seigneur.
L'autre chose, c'est qu'il y a toujours une grande différence entre ce qu'on est et ce qu'on sera. Jésus laisse entendre qu'il y a un destin qui s'ouvre pour Pierre, qui a un chemin et qui va même presque devenir une autre personne.
Oui.
Là aussi, ouais. c'est toujours c'est signé Dieu que de nous révéler à nous-mêmes progressivement et nous faire devenir peut-être un peu différents de ce qu'on est.
Oui, voilà. Donc, à partir de ce qu'on est, il était Simon, fils de Jean, et puis il va devenir Pierre, un rocher, un roc, voilà. Et donc, Jésus, il prend la personne telle qu'elle est. Et il lui ouvre un avenir. Et là, Pierre, il répond rien non plus. Donc, on ne sait pas quel est son
C'est pas l'écho que ça trouve dans son cœur.
Oui, voilà. Comment il réagit intérieurement. Parce qu'extérieurement, il ne réagit pas.
Bernadette Escaffre, avant qu'on fasse une première pause, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ? Alors, on peut l'avoir compris au fil de vos réponses. Mais je pense à ceux qui peut-être cherchent une fameuse rencontre avec Dieu, qui ont l'impression pour qui Dieu n'est pas encore réellement quelqu'un. Pas de panique, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ou au contraire, faut-il passer son temps à courir après d'autres témoins et à les interroger ?
Alors, je pense que c'est pas forcément dans la course qu'on le rencontrera, mais il y a plusieurs choses. Par exemple, je pense que c'est important de lire la parole de Dieu, de lire la Bible, et de la lire et de la relire. Parce que là, c'est une parole vivante, et plus on la lit, plus on la découvre, et plus le Seigneur nous parle à travers ça. Et après, c'est sûr, dans notre expérience, enfin moi, ce que je vois aussi, c'est ça a été des personnes aussi qui m'ont, des témoins qui m'ont orienté vers Dieu et qui m'ont aidé à connaître et à voir le Seigneur comme quelqu'un de vivant qui pouvait me parler, m'appeler.
On va faire une première pause. Il y a un cycle de conférences bibliques à l'Institut catholique de Toulouse cette année sur le thème « Que faire pour avoir la vie éternelle ?» avec un point d'interrogation. Une prochaine conférence est avec Jean-Michel Poirier. Ça sera le 4 février prochain. Être sage et aimer, telle est la réponse de Jean-Michel Poirier. Et puis vous interviendrez le 10 mars. Et votre réponse, ça sera croire, en partant justement de l'évangile selon saint Jean. On fait une première pause musicale et puis on vous retrouve.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Saint-Pierre ou l'appel de Dieu, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission, de biblistes, ou plutôt pour nous aider à devenir des biblistes en herbe. Nous sommes ce matin avec Bernadette Escaffre, qui est professeure émérite en sciences bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Avec vous donc, Bernadette, on essaie de voir la figure de Pierre, donc premier chef des apôtres, premier pape de l'histoire de l'Église, d'une certaine manière, et de voir ce que nous en dit particulièrement l'évangile selon Saint Jean. Vous dites que l'évangile selon Saint Jean avait dire une finesse de regard sur Pierre, et puis ce que ça peut nous dire de Dieu et de nous-mêmes. Dans cette deuxième partie d'émission, l'appel de Dieu, puisque c'est le fond de cette émission, donc on avait vu en première partie l'appel, l'initiative de Dieu. Maintenant, l'appel de Dieu ne garantit pas une success story, on s'est dit. Alors si on parcourt l'évangile selon Saint Jean, donc c'est Jean 67-71, ce sont donc les versets. Jésus dit donc aux 12, voulez-vous vous aussi partir ? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et su que toi, tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 ? Et l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, de Simon Iscariote. Celui-ci, en effet, était sur le point de le livrer un des 12. On va parcourir donc ce passage biblique avec vous, essayer de voir ce que l'on peut découvrir de Pierre et ce que ça peut nous dire à chacun d'entre nous. La première chose à préciser, c'est de contextualiser ce passage des Écritures. Bernadette Escaffre, ça ne vient pas comme ça, hors sol. Dans quel contexte dit ça Jésus a-t-il ce dialogue avec Pierre ?
Alors, dans l'évangile de Jean, c'est dans le cadre de la multiplication des pains. Il y a eu, au début d'ailleurs du chapitre 6, le récit de la multiplication des pains. Dans ce récit, on sait ce qui se passe.
Donc Jésus... grand miracle s'il en est de Jésus. Hein. Oui, 5000 personnes nourries à partir de combien de pains déjà ? 5 pains d'orge et 2 poissons ?
Oui, voilà. Donc à partir de rien, Jésus a multiplié. En divisant, il multiplie. Voilà, c'est le calcul de Jésus, les mathématiques de l'évangile. Et donc, ils ont tous mangé, ils ont à satiété, ils se sont rassasiés. Et donc, Jésus, après, va s'éloigner, justement parce qu'ils veulent le faire roi. Jésus voit qu'ils veulent le faire roi, il s'éloigne, parce que ce n'est pas à partir de ce succès, hein, de la multiplication des pains et du fait qu'ils se soient rassasiés, que Jésus doit être intronisé roi. Et donc il y a encore un chemin à faire. Et alors il s'éloigne, et de fait il y a dans le chapitre toute une poursuite des personnes qui veulent trouver Jésus. Il s'est éloigné et ils vont chercher où est-ce qu'il est. Vous voyez, donc il y a la traversée sur la mer de Galilée, et bon, etc. Finalement, quand ils le retrouvent, Jésus va leur parler. Et il va les
donc là, il leur parle à la synagogue de Capharnaüm cette fois.
Oui, voilà, oui, oui.
Et il leur dit qu'il est le pain de vie.
Voilà, et il les oriente du pain qui les a rassasiés une journée. Il les oriente vers le pain de vie, c'est-à-dire lui-même. Et donc pour découvrir où est-ce qu'ils vont trouver la vraie nourriture. Dans ce que dit Jésus, c'est difficile à comprendre ou à accepter, de fait, parce que Jésus parle de manger sa chair. Donc c'est quelque chose d'inouï. Les
apôtres n'étaient pas du tout préparés à ce type de...
Oui, voilà, c'est une surprise. C'est lui, le pain qui descend du ciel. Il y a un rappel de la manne du désert, mais c'est le pain que crée Jésus lui-même est encore plus que la manne. Et donc c'est difficile à comprendre. Et il y a un moment, dans cette foule de gens, ils s'en vont. Et même des disciples de Jésus vont partir, s'éloigner en disant « mais c'est trop difficile ce qu'il dit, c'est difficile à accepter ce qu'il dit », et donc ils s'en vont. Et à la fin, donc il ne reste plus que les 12. Et c'est assez...
Donc on passe de 5000 hommes nourris à 12, et il y en a qu'un qui prend les devants et qui prend la parole.
Voilà,
alors vous dites que Pierre, à ce moment-là, prend de l'assurance, mais dans son attitude, on a l'impression qu'à la fois il parle de lui-même... il prend position, il sort du lot. Il a cette proclamation, mais il est. On se dit qu'il est en même temps quelque part. Il y a une forme d'activité passivité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à la fois il le dit et en même temps c'est plus grand que lui.
Oui, c'est-à-dire là, parce qu'il dit aussi, il ne dit pas « je », il dit « à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous avons cru, et nous avons... Donc, c'est comme s'il parlait un peu au Sionnant des douze. Hein, voilà. Donc, il y a une initiative de sa part. Maintenant, après, on verra par la suite que il a pas bien compris quand même qui était Jésus. Hein. Mais ici, en tout cas, au nom des douze, il va affirmer une fidélité au Seigneur, et donc ils vont continuer à suivre Jésus. Même ça ne veut pas dire que il a tout compris, mais il a compris que Jésus, il a les paroles de la vie éternelle.
Alors, il a une expression, le titre Saint de Dieu, vous dites que Saint de Dieu, ce n'est pas une expression courante. Vous nous expliquez d'où elle vient, cette expression, Saint de Dieu ?
Le Saint de Dieu, donc on ne le trouve pas souvent dans l'Évangile, et ça renvoie aussi plus loin dans l'Évangile de Jean.
Dites qu'on peut faire un parallèle avec l'expression « le Fils de Dieu vivant ».
Mm-hmm. Oui. Donc c'est-à-dire il donne un titre à Jésus qui l'oriente déjà vers une dimension un rapprochement de la divinité. La sainteté, c'est une qualité de Dieu, c'est un nom de Dieu, on pourrait dire le Dieu trois fois saint. Et puis de Dieu. Donc c'est vraiment, il y a une reconnaissance de la part de Pierre de qui est Jésus, qui est assez forte. Et ça, on le retrouve avec des différences aussi dans les autres évangiles, où Pierre est celui qui affirme, qui reconnaît Jésus.
Alors sans pour autant que la reconnaissance soit, on va dire, pleine, puisque quand vous faites le parallèle avec le Fils de Dieu vivant, c'est donc dans l'évangile selon saint Marc, et c'est l'expression de la part d'un esprit impur à l'adresse de Jésus, donc on a l'impression que c'est pas une connaissance quelque part comme de l'intérieur.
C'est vrai qu'il ne suffit pas de dire, hein, mais après, disons, dire les mots ne suffisent pas. Alors là, Pierre, il parle, mais on va voir dans la suite, il ne sera pas disposé à suivre Jésus jusqu'au bout. Hein, et donc, il y a un cheminement. Hein, et c'est plein d'espérance, parce que ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'on est arrivé au bout. Hein, et Jésus va amener... ou essaie d'amener les disciples, et Saint Jean, à travers son évangile, essaie de nous amener les disciples, de montrer comment les disciples sont amenés par Jésus jusqu'au bout, et comment le lecteur aussi doit entrer dans ce cheminement pour suivre Jésus et comprendre quel est le sens de la mort de Jésus sur la croix.
Vous soulignez que Jésus ne félicite pas Pierre aussi. Oui. En tout cas dans Saint Jean, il ne le reprend pas en lui disant bah, bravo, exactement, tu as bien parlé, c'est tout à fait cela. Comment le comprendre, cette forme de silence?
Et parce que je pense aussi que le Seigneur, il ne veut pas mettre l'accent sur les félicitations qu'il peut faire à Pierre, mais plutôt c'est une étape, et donc qu'il n'en reste pas là. Parce que s'il le félicite trop, peut-être il va penser que ça y est, il connaît tout, et donc il a plus de chemin à faire. Et donc il le félicite pas. Hein. D'ailleurs, on voit dans l'évangile de Marc aussi que après la confession, ce qu'on appelle la confession de Pierre, Pierre qui reconnaît Jésus comme le Messie, Pierre va Jésus va annoncer la passion, il va dire je vais jusqu'à la passion, donc c'est-à-dire le Messie que je suis, c'est celui qui va aller jusqu'à la mort à Jérusalem. Et à partir de ces paroles de Jésus qui disent à Pierre, et aux disciples qu'il va aller jusqu'à Jérusalem et à la croix, Pierre intervient auprès de Jésus en lui disant mais non, jamais de la vie, tu vas pas y aller jusqu'à, enfin moi je dis avec mes mots là, tu vas pas aller jusqu'à Jérusalem. Et quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui dit passe derrière moi Satan. Il dit quelque chose de fort, c'est-à-dire tu m'empêches d'aller sur le chemin vraiment sur lequel je dois aller.
Vous disiez avec d'autres mots que Pierre avait un peu pris la grosse tête derrière après sa proclamation, c'est ça?
Un peu, oui, d'une certaine façon. Il se permet là de dire, ben maintenant moi j'ai compris que tu es le Messie, donc tu dois aller en ce sens-là. Ici, il n'y a pas cet élément. Hein. Mais dans l'évangile de Marc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il lui dit, passe derrière. C'est-à-dire, le disciple, ce n'est pas celui qui va devant, c'est celui qui va derrière. le maître et qui doit le suivre.
Vous soulignez aussi que Pierre donc, se révèle être comme la figure de proue des 12, mais qu'il n'apparaîtra à nouveau comme tel que dans qu'à l'heure du repas d'adieu et de la passion de Jésus. Il y a comme une forme de silence de cette mise en avant de Pierre après au long de l'évangile selon saint Jean. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire de Dieu et pour nous la première chose, on peut l'entendre et le réentendre. Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'en retrouver bien souvent les bras ballants. L'efficacité de la mission de Jésus, même quand il était sur terre, était quand même surprenante. Quand on passe de 5000 hommes à un seul qui a envie de vous suivre, on ne peut pas dire que ça soit une campagne de communication a priori très réussie, en tout cas selon nos critères.
Oui, oui, on pourrait dire ça, mais là aussi l'évangile il nous montre les catégories de l'évangile et où se trouve la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle dans l'évangile, elle n'est pas dans le nombre, mais elle est dans la personne, dans chaque personne. Et donc ça nous montre ça et c'est au fond quand on découvre ça soi-même ça nous touche intérieurement parce qu'on se rend compte qu'on est important aux yeux de Jésus non pas parce qu'on sait faire des choses mais parce que pour le Seigneur et dans le royaume de Dieu c'est la personne, chaque personne qui est importante et donc c'est pas le nombre. Vous voyez, peut-être au niveau de notre société ce qui est important du moins pour certaines choses c'est le nombre, c'est-à-dire
c'est d'arriver à vendre la marque au plus de personnes possible.
Voilà, c'est ça, donc si on voit qu'un produit
peu importe
pas,
des personnes,
il n'y a qu'une personne ou quelques personnes qui sont intéressées, on ne va pas le faire. Vous voyez, donc c'est un exemple plus. Mais donc c'est le nombre qui compte. Et dans l'évangile, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est chaque personne.
Est-ce que ce n'est pas aussi que Dieu a introduit une forme de chemin, on a l'impression que c'est un peu ce qui arrive à Pierre. Vous dites, quand il répond « Tu as les paroles de la vie éternelle », il ne s'agit pas seulement de mots, mais de paroles, d'événements, de faits. Bref, il y a comme un chemin qui se trace,
oui, exact,
qui est le chemin de la vie éternelle.
Oui. Donc Pierre, il dit une vérité là, quand il dit ça de Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus, il dit les paroles de la vie éternelle, et Jésus lui-même, il est lui-même, disons dans tout ce qu'il est et ce qu'il fait, cette vie éternelle qui peut être accessible. Donc il dit une vérité, mais ça s'ouvre, et ça s'ouvre à un cheminement. Donc, s'il a les paroles de la vie éternelle, il faut suivre Jésus et jusqu'au bout. Et voilà. Donc, c'est une invitation qui est faite à Pierre et qui est faite à chacun de nous aussi.
Vous laissez entendre aussi que on n'a pas les sécurités ou Pierre n'a pas les sécurités qu'il espérait dans cette situation et que c'est aussi comme ça qu'il faut le réfléchir, que la foi est un pas dans le vide, qu'on peut pas faire les choses à la place de Dieu lui-même. Expliquez-nous ça, cette histoire de sécurité.
C'est-à-dire, oui, peut-être on voudrait partir plutôt de dire voilà, je sais, et puis voilà, je sais, c'est clair pour moi, donc il n'y a plus de problème. Mais non, c'est...
C'est-à-dire, j'ai compris Dieu, c'est ça ?
Oui, voilà, j'ai compris, donc ça y est, j'ai fini, j'ai plus rien à apprendre, c'est...
C'est-à-dire ce que le pape François dénonce comme une hérésie, hein, dans le Gaudete et Exultate.
Oui, oui, voilà,
dit
c'est
que c'est
vrai.
Une forme de gnose d'avoir...
Oui, voilà, de
d'avoir réponse à tout,
c'est... Exact, et de penser que c'est sur ses propres... ses propres qualités, si on en a, que l'on peut avoir la vie, qu'on est important. Et l'évangile et les évangiles aussi nous montrent que ce n'est pas à partir de cela. Et donc Pierre, il aura à faire l'expérience non seulement du fait qu'il a compris qui était Jésus en disant tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Saint de Dieu, mais il aura à faire l'expérience et en particulier des reniements aussi, c'est-à-dire il fait l'expérience qu'il n'est pas capable d'être disciple de Jésus, de dire qu'il est disciple de Jésus.
On va y venir puisque ça sera l'objet de la dernière partie, pas de vocation sans amour. Juste si on continue de se poser la question pour nous au regard donc de ce passage de l'évangile selon saint Jean et de ce que Pierre vit, on se disait on a beau parfois lire ou relire l'évangile, aller régulièrement à la messe, il est difficile de renoncer à un Dieu qui n'a pas la toute-puissance que l'on attend. C'est aussi bien légitime, non, Bernadette Escaffre, on n'est jamais que des hommes.
Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et en même temps, avec l'expérience de Pierre, je pense que ça nous donne beaucoup d'espérance parce qu'on voit que finalement Jésus ici, il le félicite pas, mais Jésus ne va pas le rejeter de parmi ses disciples. Après, quand il y aura des expériences dans lesquelles il va pas être à la hauteur. Hein. Et donc, je pense que là, ce passage aussi, il nous dit quelque chose d'important dans ces paroles de Pierre, quand Pierre dit « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Donc, Pierre, ici, nous invite à écouter Jésus. « Tu as les paroles de la vie éternelle ».
Je rappelle le cycle de conférences bibliques donc, qui est donné à l'Institut catholique de Toulouse dans lequel vous intervenez. Que faire pour avoir la vie éternelle, justement point d'interrogation au long de cette année. Votre conférence, vous, ça sera donc le 10 mars prochain. La réponse, croire au regard de l'Évangile selon Saint Jean. Et le 4 février prochain, ça sera Jean-Michel Poirier, être sage et aimer. On fait une deuxième pause et on vous retrouve pour ce parcours biblique.
Radio Présence à Cahors, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Saint-Pierre ou l'appel de Dieu, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Petit parcours dans les Écritures avec Bernadette Escaf, professeure émérite en sciences bibliques à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette dernière partie d'émission, toujours au sujet de l'appel, après l'appel, l'initiative de Dieu, l'appel ne garantit pas une success story, entre guillemets, pas de vocation sans amour. Et je pourrais le dire plus lentement pour imprimer et montrer, on va dire, tout ce qu'il y a de grand que nous fait découvrir Saint-Pierre, pas de vocation sans amour. On va parcourir plusieurs passages des Écritures avec vous. Alors le principal, ça sera ce face-à-face entre Jésus après sa résurrection, Jean 21, 15, 22. Mais on y reviendra. Vous vouliez commencer un petit peu plus tôt, parce que sinon on arrive un peu trop vite à la résurrection, alors que Saint-Pierre vient juste de proclamer « Tu es le Saint de Dieu ». Deux passages, vous les qualifiez comme tels, entre « désir de suivre Jésus » et « annonce de reniement ». Et puis l'autre propos, vous parlez de pétrification de Pierre lorsqu'il renie. Alors le premier, c'est donc ce dialogue, je vais le dire, on ne pourra pas lire les autres passages. Simon Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, vous évoquez ce passage, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je déposerai ma vie pour toi. Jésus répond, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu n'es pas renié trois fois. C'est donc Jean 13, 36, 38. Là-dessus, vous insistez sur deux choses, sur des verbes. Suivre et déposer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, voilà. Donc là, on se trouve après la, c'est le dernier repas de Jésus avec les siens. Et donc Jésus va leur donner un peu son testament. Et à un moment donné, donc, Simon-Pierre va intervenir. Et dans ce qu'il dit, sa promesse, enfin, ou son désir, c'est de suivre Jésus et en posant une question, parce que le Seigneur lui dit, Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Voilà. Et donc la question de Pierre, c'est pourquoi je peux pas. Et donc il montre son désir, qu'il est prêt à le suivre. Alors le verbe suivre, en grec, c'est le verbe akoluteo, qui est le verbe typique, enfin le mot technique, disons, pour désigner le disciple. Donc Pierre, il est plein du désir de rester le disciple de Jésus jusqu'au bout. Hein, je te suivrai, je suis prêt à donner, à déposer ma vie pour toi.
Déposer aussi, est-ce que vous voulez dire quelques mots, déposer?
Oui, voilà, alors parce que bon, dans les traductions, souvent c'est « je donnerai ma vie pour toi ». Et quand ça serait un autre verbe, mais là, le verbe qu'il y a, qui ne correspondrait plus à déposer, donc on peut dire c'est un peu bizarre, déposer, mais ce verbe-là, il renvoie à un autre passage dans l'évangile de Jean, où Jésus parle du bon berger. Et Jésus, c'est le bon berger. Et quand il parle du bon berger, Jésus dit, le bon berger, c'est celui qui dépose sa vie pour les brebis.
Donc il se prend pour le bon berger, en fait,
voilà.
C'est ça ?
Voilà. Et donc, Jésus dit, le bon berger va déposer sa vie, et Pierre là, il promet. Et donc là, on a quelque chose de très intéressant, qui nous enseigne quelque chose d'important, c'est que le disciple là, il veut être à la place du bon berger, il veut être à la place du maître. Or, il aura à faire l'expérience lui-même du maître qui dépose sa vie pour lui, et alors après coup, il pourra lui, à son tour, déposer la vie pour les brebis.
Il y a un autre passage, donc, c'est donc Saint Jean chapitre 18, versets 15-18 et après 25-27. Je ne vais pas les lire parce que ça serait un peu trop long. C'est donc le reniement de Pierre. Alors vous faites un parallèle qui peut éclairer la suite de notre propos sur le verbe être. Pendant qu'il y en a un qui, dans le fond, dit qu'il n'est pas, donc le disciple de Jésus, il y en a un autre tout près de lui qui dit devant Pilate qu'il est, justement. Expliquez-nous ce parallèle que vous faites.
Alors, c'est pas exactement devant Pilate, c'est le grand prêtre.
Le grand prêtre, pardon.
Oui, ce qui arrive là et que Jean nous montre dans son évangile, c'est qu'il met deux scènes en parallèle dans le récit, ou une enchâssée dans l'autre, c'est-à-dire il y a Pierre qui va renier et Jésus qui est devant le grand prêtre et qui va affirmer. Et on voit que Jésus se révèle libre alors qu'il est attaché, il est prisonnier. Et Saint-Pierre qui n'est pas attaché, n'est pas prisonnier, il se révèle pas libre. Alors il y a deux interrogatoires, et donc si on regarde l'interrogatoire qui est fait à Pierre, on connaît, donc ça ressemble à ce qu'on a aussi dans les autres évangiles, où on dit à Pierre qu'il est disciple de Jésus, et Pierre va répondre je ne suis pas. Et donc ce « je ne suis pas » est très important dans l'évangile de Jean, parce qu'on a tout au long de l'évangile plusieurs endroits où Jésus va se présenter comme « je suis ». Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le pain de vie, ou alors simplement « je suis ». Et donc là, on a un peu l'antithèse de Jésus en Pierre qui va dire « je ne suis pas ». Donc c'est pas simplement « je ne suis pas disciple », mais ça montre qu'il y a autre chose. Et finalement, ce qui arrive à Pierre là, c'est qu'il va être dans l'opposition par rapport à Jésus, et aussi il est présenté en contraste avec Jean-Baptiste, qui a été présenté au début de l'évangile comme celui qui dit « je ne suis pas », mais son « je ne suis pas » de Jean-Baptiste, c'est un témoignage, il dit « je ne suis pas le Christ », parce qu'il laisse le titre de Christ à Jésus. Et là, les « je ne suis pas » de Pierre ne sont pas des témoignages, mais sont des négations.
Alors Bernadette Escaffe, maintenant si on en vient donc au cœur de cette troisième partie, « Pas de vocation sans amour », c'est donc Jean 21, 15, 22. On ne peut pas tout lire, je lirai peut-être juste le début. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui Seigneur, toi tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Puis il lui dit une seconde fois, « Simon de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Conduis mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre s'attrista, qui lui est dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout. » Toi, tu connais que je t'aime. Jésus lui dit, nourris mes brebis. C'est donc un dialogue qui est connu. Vous commencez par souligner une chose, c'est que la boucle est d'une certaine manière bouclée, parce que Jésus s'adresse à lui et le nomme de la même manière, Simon de Jean.
Oui, voilà, exact, oui. C'est comme un retour au début.
Donc, c'est la première rencontre. Hein.
Oui, c'est-à-dire, je pense qu'en disant cela, Jésus s'adresse à Simon-Pierre dans son histoire, dans son humanité, dans sa famille, Simon, fils de Jean. Donc, c'est le prénom et le nom de famille, si on peut dire. Donc, il s'adresse à lui, et en disant cela, il reprend un peu toute l'histoire de Simon et puis il va l'ouvrir vers autre chose. Alors il y a trois questions de Jésus par rapport à Pierre, comme il y a eu trois reniements. Et donc les deux sont en relation, les deux d'ailleurs sont en relation, les deux épisodes, parce qu'il y a aussi d'autres éléments dans le texte qui permettent de faire la relation.
Redites quelques mots sur les verbes en fait surtout, parce que voilà. Et alors, reniement, on s'en
alors, sait, mais... Pierre il a renié Jésus et Jésus lui avait annoncé qu'il allait le renier. Mais Jésus ne lui a pas dit, tu vas me renier, je ne veux plus comme disciple, tu n'es pas à la hauteur d'être disciple. Il a continué à le recevoir comme disciple. Et donc quand il se retrouve, c'est la première fois après ses reniements, où Pierre rencontre Jésus tête à tête. Là ils sont les deux, après le repas, il pose la question à lui.
Alors les verbes, Bernadette.
Oui, alors dans les verbes, Jésus... lui pose la question, lui dit « m'aimes-tu ?» Alors, en français, on ne voit pas la différence. Il y a un verbe qui est un amour d'amitié et l'amour d'oblation, l'amour qui serait prêt à donner la vie jusqu'au bout. Jésus lui demande d'abord à Pierre s'il est prêt de l'aimer, d'un amour pour donner la vie jusqu'au bout. Et Pierre lui répond à un amour d'amitié.
Donc c'est agapé et philia.
Voilà, oui.
Donc, très connu de certains, pardon pour ceux qui connaissent, mais c'est toujours bon de le rappeler, vas-y.
Oui, donc agapao et philéo qui on connaît aussi. Oui. Pierre, au fond, après ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, il n'est pas capable, lui, de dire qu'il aime Jésus d'un amour d'agapé. Et donc, il reste au niveau du filéo.
Puisque Jésus lui demande par deux fois, en quelque part, filia, enfin agapé.
Deux fois agapé.
Agapé, oui. Pierre répond deux fois filia, et puis la troisième fois, Jésus se met à son niveau et lui demande filia.
Oui, voilà. Oui. Il se met à son niveau, ou alors il accepte cela, c'est-à-dire que l'amour que Jésus demande aux disciples, c'est pas simplement l'amour qui va donner, qui va donner la vie, qui va déposer la vie, mais c'est l'amour d'amitié aussi, c'est-à-dire cette amitié elle reste, hein. Voilà. Et donc c'est très beau ce dialogue, et aussi de voir que dans la question que Jésus pose, Jésus, quand il rencontre Pierre après les reniements, il n'est pas dans une attitude critique par rapport à Pierre, ou ironique, dans le sens, tu vois, je t'avais annoncé, donc tu vois bien que j'avais raison, enfin, ou des choses comme ça, mais il ne vient pas non plus, Jésus, en disant à Pierre, mais je t'aime quand même. voyez, ou ça serait donc, ben voilà, bon, on passe, ou alors on va oublier. Non, il pose trois questions pour chaque reniement, alors, c'est-à-dire que les reniements font partie de l'histoire de Pierre, et c'est avec ça que le disciple peut continuer.
Qu'est-ce que ça nous dit du coup de la manière dont Dieu agit dans le cœur de Pierre, et surtout de la manière dont Dieu aime ? Vous laissez entendre qu'il y a comme une grande délicatesse, c'est-à-dire qu'en Dieu témoigne de son amour, non pas en l'occurrence en parole, mais en acte.
Oui, il a témoigné. Il a témoigné en acte. Et puis là, je pense aussi qu'il y a un élément qui est très important, il me semble, c'est que Jésus ne lui dit pas « je t'aime », mais il lui dit « m'aimes-tu ». C'est-à-dire qu'il donne la possibilité à Pierre de dire « je t'aime ». Et donc, il y a une inversion qui se fait. Pierre pourra être le sujet du verbe « aimer ». Et devant un Jésus qui l'a renié, qui savait qu'il l'a renié, Pierre sait que qu'il a renié Jésus. Hein.
C'est parce qu'on sait combien on est aimé qu'on peut aimer à son tour.
Voilà, il a la possibilité de découvrir cet amour délicat de Jésus qui ne vient pas lui dire « bon, mais écoute, on oublie, voilà, non ». Mais avec la conscience des reniements, Jésus lui dit « m'aimes-tu ?» Et Pierre peut dire « je t'aime » alors qu'il n'a pas su aimer. Et donc ça s'ouvre sur un avenir. Hein, c'est un passé qui ouvre sur l'avenir.
Alors Bernadette Escaf, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour nous ? Celle qui me vient, c'est que on se sent presque un peu démuni, parce que si Dieu en fait a toujours l'initiative de l'appel, qui nous conduit sur un chemin qui n'est pas celui qu'on attend, et que quelque part il ne peut nous mettre on ne peut aimer que ce qu'il nous met dans le cœur, ou ce dont il nous a témoigné, enfin l'amour dont il nous a témoigné, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais vous avez compris. Dans le fond, on se dit que c'est une aventure bien déroutante et c'est dans laquelle on n'a pas beaucoup de prise, peut-être en relisant comme ça la vie de Pierre dans l'Évangile selon saint Jean.
Oui, c'est déroutant, mais c'est passionnant aussi, et c'est parce que c'est l'histoire d'un amour. Et donc là, on apprend dans la relation avec le Seigneur, on apprend à aimer. Même si on est encore loin de son amour, mais c'est justement dans ces ce qu'on voit aussi à partir de l'expérience de Pierre, c'est que les échecs, les négations, les refus, les reniements, tout cela, c'est pas un encouragement à les avoir, mais s'il y en a, parce qu'il y en a dans notre vie, des refus du Seigneur, de son amour, enfin, ou de la mauvaise compréhension, rien n'est une impossibilité définitive qui va nous éloigner de l'amour du Seigneur. Si on revoit le Seigneur, le ressuscité, qui vient vers nous, comme vers Pierre en lui disant « m'aimes-tu ?» Et donc cette parole du Seigneur est encore à attendre. Et alors, c'est ce qui est intéressant aussi de voir là dans cet évangile, et que nous dit Pierre, c'est que à partir de ces réponses de Pierre, je t'aime, Jésus va lui dire suis-moi. Et il lui donne la responsabilité du troupeau.
Donc il l'appelle enfin.
L'appel est à la fin, c'est-à-dire une fois que Pierre a eu l'expérience de l'amour de Jésus.
Eh bien, merci beaucoup Bernadette Escaf pour cette balade dans les Écritures. Un grand merci à vous. Je rappelle donc deux conférences à venir sur le thème cycle de conférences à l'Institut catholique de Toulouse. Que faire pour avoir la vie éternelle ? Point d'interrogation le 20 février. Réponse de Jean-Michel Poirier, être sage et aimé. Et le 10 mars prochain, croire en parcourant l'évangile selon saint Jean, justement, avec vous, Bernadette Escaf. Vous êtes donc bibliste émérite au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.